Hey, how you doing?
Now, say my name.
You can't do anything with the information you have except maybe publish it in the Everyone Thinks We're Insano's home journal.
I come here to help, but y'all out for blood. I'm not answering no more questions.
Joyeux Noël à toutes, joyeux Noël à tous, bienvenue dans ce 41e numéro de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. 50 minutes cette semaine de débats passionnés, d'argumentaires engagés, de prises de position risquées, de concessions désolées sur les séries ou autour des séries, mais toujours dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi pour cet épisode un peu plus long et très spécial, Charlotte Blum d'OCS. Salut Charlotte.
Salut.
Marion Olité de Combini. Hello Marion.
Salut.
Et Asma El Mardi de Brain Damage. Bonjour Asma.
Bonjour.
Fête oblige, nous allons nous livrer à l'exercice périlleux du bilan en revenant sur ce qui a marqué cette année 2017 en bien comme en mal, en tâchant de ne pas être d'accord. Sinon, ce serait moins drôle. Dans les 50 minutes qui viennent, il sera donc forcément question de The Leftovers, de Stranger Things, du Bureau des Légendes, de The Walking Dead, de 10%, de The Handmaid's Tale et de beaucoup d'autres. 365 jours de série résumés en moins de 3 quarts d'heure. En gros, si on enlève les sons, c'est parti pour le bilan 2017 de Un épisode et j'arrête.
I was just wondering if you could translate something for me. I think it's Latin. Nolite de bastardes carborundorum.
Did you hear that?
Does it mean something?
Not really.
It's a joke.
Oh, how is it a joke?
It's only funny if you know Latin. Actually, it's probably only funny if you're a 12-year-old boy studying Latin.
It doesn't really translate.
It's something like, don't let the bastards grind you down.
Don't let the bastards grind you down.
Ne soyons pas mauvaise langue, commençons par revenir sur les bonnes nouvelles. Soulignons ce qui a marché ailleurs comme ici. 2017 n'a peut-être pas été une cuvée historique, mais elle n'a pas manqué de grands crus et de moments forts. Commençons donc par les nouveautés incontournables de cette année sérielle et débutons avec un extrait de ce qui est quasi unanimement présenté comme la meilleure série de l'année, The Handmaid's Tale, adaptation d'un roman de la canadienne Margaret Atwood sur un monde dystopique où les femmes sont réduites en esclavage, série presque malgré elle symbolique de l'Amérique de Trump et annonciatrice du climat de fin d'année, indéniablement une claque. On en a parlé ici dans cette émission, parlons-en encore dans ce bilan. Que dire et pourquoi The Handmaid's Tale peut être considérée comme la série de l'année? Si elle l'est, vous avez le droit de contester d'ailleurs. Qui s'y risque à cette critique? Charlotte.
Qui pourrait dire ce n'est pas la série de l'année? Tu es en plus entourée de 3 femmes. Ça va être très compliqué.
Il y en a
histoire.
D'autres que j'ai beaucoup aimées.
Non, mais oui, d'accord. Enfin, je crois qu'il y a toutes les qualités du monde sériel réunies dans une série. C'est quand même balèze. La meilleure actrice de l'année, très clairement. Une réalisation extraordinaire.
Elisabeth Moss.
Une réalisation extraordinaire faite par une femme chef-op à qui on a enfin donné sa chance, Reed Morano, et qui a eu un Emmy pour ça. Une écriture parfaite. Et puis, un appel à la rébellion. C'est bien.
Un beau silence.
Non, mais en fait, c'est
presque sacré.
En fait, on a tellement parlé de The Handmaid's Tale que c'est presque devenu banal de faire son
apologie.
Oui, voilà, de faire son apologie et de rappeler tout ça. Mais effectivement, enfin, c'est évidemment la série de l'année. Elle est devenue plus qu'une série, d'ailleurs. C'est devenu le symbole de la lutte contre toutes les lois anti-avortement et compagnie de Donald Trump. Donc en fait, elle a dépassé. Elle est arrivée au moment où on en avait vraiment besoin. C'était vraiment. Je pense que maintenant on arrive quelques mois plus tard, on essaye d'avoir de l'espoir et de nouvelles séries féministes un peu feel good sont sorties derrière. Mais à ce moment-là, noir c'est noir quoi. C'était le moment de rappeler que de toute façon, de tout temps, les femmes ont été asservies d'une manière ou d'une autre. Là, on arrive à un moment où on avançait, on a régressé avec Donald Trump et où cette série, elle a touché pile poil dans là où il fallait en fait.
Avec un bouquin de 1985, comme oui. Quoi, tout ça est absolument fascinant.
En même temps, toujours quand même parce que ils ont quand même appuyé sur des problèmes de société internationaux et même américains, comme le terrorisme, cette espèce de soulèvement et de colère sociale qui a fait qu'on est arrivé à un asservissement de la femme en pensant qu'elle est à l'origine de tous les maux. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis que la série est noire, noir c'est noir. Moi, je pense que c'est une série qui apporte quand même beaucoup d'espoir parce que le personnage féminin, et je pense que c'est pour ça qu'elle a été qu'Elisabeth Moss incarne et qu'elle a été récompensée pour ça, c'est un personnage qui est bourré d'espoir et qui ne fait que se rebeller et dont la maternité originelle, celle au-delà de sa servitude, fait qu'elle a l'espoir de retrouver sa fille, l'espoir que les choses changent et l'espoir en fait que l'état dans lequel elle est, la société dans laquelle elle est
le son change. Qu'on a entendu avant dit bien ça, c'est « Don't let the bastard grind you down », littéralement « te laisse pas marcher dessus ». Enfin voilà. Et c'est, oui, on est tous d'accord qu'il y a évidemment une lumière dans cette série qui est écrasée par un monde terrible mais qui est présente quand même et qui est au cœur littéralement de l'héroïne, dans son cœur, dans ses souvenirs et dans son espoir de vivre un monde meilleur. The Handmaid's Tale, donc, qui a été diffusé sur Hulu aux États-Unis chez OCS chez nous, en attendant sa deuxième saison. Autre drame marquant de cette année qui partage certaines thématiques avec The Handmaid's Tale, Big Little Lies, sur un groupe de femmes d'une riche ville californienne, série aux faux airs de soap et à la violence psychologique palpable, ça c'est moi qui le dis, portée par un casting de stars mené par Nicole Kidman et Reese Witherspoon. Là, en revanche, les avis ont été plus partagés. Il y a pas mal de gens qui ont pensé que c'était peut-être pas autour de cette table, mais il y a des gens qui en trouvent.
Même j'ai jamais entendu.
Ah si.
Quoi, c'était quoi le
prix? Oui, mais enfin les prix, ça veut pas tout dire. Il y a des gens qui ont trouvé que c'était un peu trop démonstratif, que c'était un peu trop caricatural d'une certaine Amérique, que le côté soap envahissait parfois trop la narration.
C'est représentatif d'une certaine Amérique, mais pas caricatural. Ces femmes, elles existent. Ce milieu bourgeois existe. Et ce milieu bourgeois malheureux, alors qu'en façade, on joue à la famille modèle, existe.
Ah, c'est ce qu'on a pu voir déjà de base dans Desperate Housewives.
Sauf que là, oui, c'est un Desperate Housewives qui est beaucoup plus intelligent. Ouais. Et j'ai trouvé la subtilité de la relation entre Nicole Kidman et Alexander Skarsgård, où là, il y a vraiment un truc de violence conjugale.
Qui joue son mari,
qui est abusif. Et la manière dont la série arrive à rentrer dans la tête de ce personnage nous montre en fait la psychologie d'une femme battue. C'est-à-dire, elle passe par toute une période de déni. Et au départ, en fait, au premier épisode, par exemple, on pense que ah oui bah ils ont une relation passionnée puis c'est comme ça, enfin on comprend pas très bien, et en fait ça vraiment toute la complexité de la femme battue et comment elle fait pour s'en sortir, pour l'accepter et pour aller de l'avant, je trouve que c'est vraiment très très bien. J'ai rarement vu une série qui a montré ça de manière aussi réaliste en fait. J'ai compris la psychologie de la femme battue, alors qu'en général de loin on a tendance à se dire mais pourquoi elle reste, mais elle sait bien que, et tout est toujours plus compliqué évidemment quand tu vis les choses.
Ceci étant dit, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la deuxième saison qui a été annoncée, c'est pas une si bonne nouvelle que ça ?
Ah non, pas du tout. C'est un autre roman. Moi, ce que j'aurais trouvé dommage, c'est de l'abandonner. Par exemple, comme HBO a abandonné The Night Of. Je pense que quand quelque chose est bien fait, fonctionne, plaît et est bien fait avec pas des grosses cordes, avec une intelligence, avec de belles images, il faut continuer. Au contraire.
Au risque peut-être de gâcher un peu la mémoire de la première saison.
Bah dans ce cas-là, on fait pas de saison de The Handmaid's Tale, enfin, je veux dire.
Non, mais après le problème, c'est que Big Little Lies est adapté d'un roman et qu'il n'y a pas de suite. La suite va être écrite comme 13 Reasons Why, comme ces séries-là qui à la base étaient des mini-séries, non ?
Je pense que c'est un autre roman, non, d'elle.
D'accord, donc ça va être, c'est quand même, il y a une histoire solide.
C'est une anthologie dans ce cas-là.
Ah oui, ouais. Voilà.
Oui, c'est passé de la mini-série à l'anthologie, quoi.
Troisième et dernière nouveauté, énormément commentée. Vous avez compris, on commence par les séries qui ont fait parler. Après, on va en choisir d'autres. Mindhunter sur Netflix, retour de David Fincher aux sources du récit de profilage et du serial killer, qui a beaucoup plu. Je fais partie des enthousiastes, mais qui n'a pas que des enthousiastes. Il y a aussi ceux qui n'ont pas aimé. Et y en a-t-il autour de cette table? Tout le monde a adoré Mindhunter, et c'est formidable. Et voilà, on va dire ça. Non, Charlotte, t'as pas aimé?
Non, j'ai pas aimé. J'ai pas adoré. Je lisais plein de trucs sur des gens hyper enjoués. Je l'ai regardé jusqu'au bout et j'ai pas de déplaisir. Maintenant, c'est Fincher qui fait du Fincher. C'est des hommes qui se regardent entre eux, qui se plaignent que leur maman elle était pas sympa. T'as deux personnages féminins qui sont une dominatrice et une meuf qui doit choisir entre l'amour et le boulot et qui une fois qu'elle choisit le boulot est désespérée et donne à manger un chat imaginaire. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment le boy club de Fincher et je trouve ça déplorable en fait.
Ah mais moi je serais pas aussi. J'ai pas perçu les personnages féminins aussi clairement. Pour moi, la petite amie de Holden, par exemple, en fait, c'est elle qui le pousse à réfléchir à plein de choses et qui va l'aider aussi dans son travail à lui. Et c'est pareil, elle est dans son métier. Et
moi, je trouve qu'elle a un côté où elle lui fait payer le fait qu'elle le soutient. C'est-à-dire, je te soutiens, mais je te parle tout le temps mal. Je te donne jamais ce que tu veux. Elle lui parle comme un débile, comme un enfant. Enfin, elle est hyper. Tu vois, elle a un côté hyper maternel. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est avec un mec très intelligent et elle est très intelligente elle-même. Mais je trouve qu'elle le couve plus qu'elle lui démontre qu'elle a compris qu'il était intelligent. Je trouve qu'elle a un côté, elle le tient un peu en laisse, quoi. Asma, ça m'a un peu dérangé.
Asma, un mot sur Mindhunter?
Moi, j'ai beaucoup apprécié la série parce que je me suis beaucoup intéressée pendant longtemps au profilage et j'ai trouvé que revenir aux sources justement de la psychologie au FBI, des serial killers, avant même qu'on connaisse le concept du serial killer, je trouvais ça super intéressant. Mais par contre, c'est vrai que j'ai quand même des réserves parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lenteur, que comme disait Charlotte, c'était du Fincher. Moi, je suis pas très fanat de l'anachronisme et du côté un peu épuré de Fincher qui pour moi trahissait un peu l'époque. Mais à côté de ça, ça reste quand même une série intéressante, malgré ses palabres, malgré parfois sa psychologie un peu stéréotypale. Mais c'est une série qui doit se regarder quand même parce qu'elle a son intérêt, je pense, d'un point de vue narratif et aussi d'un point de vue développement des personnages.
Alors, on a beaucoup parlé de ces trois séries, y compris dans un épisode des Jarrettes. Mais qui avait-il d'autre à voir à tout prix, encore une fois, dans les nouvelles séries? On va parler ensuite de nouvelles saisons, de retours, de disparitions, etc. Quels sont vos choix, chers amis, plus personnels, oserais-je dire? Qui veut se lancer en premier? Marion.
Moi, ça va être un trio de séries féministes, mais il faut que j'en donne.
Bon, allez, vas-y, donne les trois.
D'accord. Bon. Alors, c'est un trio de séries féministes, et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elles sont toutes des tons différents. Donc, il y a l'intello I Love Dick, qui est aussi sorti cette année, qui est un peu sorti en catimini, dont on n'a pas tant parlé de ça, on a beaucoup parlé en amont. Mais moi, j'ai adoré cette série. J'ai pas forcément tout compris au cheminement de Chris Cross, donc l'héroïne.
Un drôle d'objet, presque une œuvre conceptuelle.
Voilà, c'est très conceptuel, donc c'est pas forcément hyper accessible. Mais en fait, j'ai quand même trouvé ça passionnant et j'ai envie de revoir toute cette première saison pour mieux justement l'appréhender et la comprendre.
Y a-t-il une suite d'ailleurs ?
Je pense qu'il y a une suite.
D'accord, j'avais un doute là-dessus.
Il me semble qu'il y a une suite de prévue. La deuxième série qui est vraiment l'inverse d'I Love Dick mais toujours féministe, c'est The Bold Type. Une série pour les millennials, de jeunes femmes, dynamiques, qui font face à des problématiques du quotidien d'aujourd'hui. Et je pense vraiment que c'était un truc manquant entre les séries pour ados et les œuvres féministes un peu plus adultes. C'est ça de aux jeunes femmes maintenant et avec un discours qui peut être des fois un peu cheesy mais qui est qui donne de l'espoir et qui donne envie aux jeunes femmes qui est très empowering, c'est-à-dire qui encourage les jeunes femmes à faire tout ce qu'elles ont envie de faire en fait
et qui est inédite en France pour l'instant. Et il y a pas de diffusion chez nous. Bon, ouais. Puisqu'elle a été reconduite, elle finira bien par atterrir quelque part.
Moi j'espère parce que vraiment j'ai adoré.
Si c'est pas Teva, c'est Netflix qui va sauter dessus.
Ça serait bien.
Alors, et la troisième?
La dernière, elle est très récente mais j'ai vraiment adoré, c'est She's Gonna Have It.
Nola Darling n'en fait qu'à sa tête,
voilà.
En français.
Oui, mais je déteste ce titre en français, il est horrible.
C'est le titre du film. Hein.
Oui, donc c'est un film de 1986 de Spike Lee, que Spike Lee lui-même a rebooté en série, et il le fait avec une intelligence, avec une modernité, alors que déjà en 86, le film était en fait hyper progressiste par rapport à l'époque. Mais moi, j'ai adoré ce personnage d'une femme alors qui se définit pansexuelle, polyamoureuse, qui est noire, enfin c'est le concept... qui est une artiste, c'est le concept aussi de l'intersectionnalité qui est parce qu'on a tendance à beaucoup parler des femmes blanches hétéros, cette série c'est aussi parler de toute la diversité en fait, des femmes aussi qui sont noires, qui sont pas hétéros, enfin, et du coup moi j'ai adoré aussi le discours de cette fille se comporte comme elle veut pas une relation monogame, on tente de la posséder de toutes les manières, de posséder son art, de posséder son corps, et elle dit non. Et je trouve ça, elle dit non et elle prend juste ce qu'elle a envie de prendre.
J'ai trouvé intéressant comment la série, par ailleurs, n'est pas, enfin, le personnage de Nola Darling lui-même est complexe, oui. Ambigu au sens où elle est réaliste, c'est-à-dire qu'elle, oui. elle se plante, elle fait des oui. choix contestables, elle maltraite elle-même les gens avec lesquels elle vit, etc. C'est pas un personnage qui est juste un argument politique, c'est un vrai personnage avec sa complexité.
C'est pas une femme parfaite.
On peut quand même dire que l'année 2017, elle aura eu ses défauts, mais on peut dire quand même qu'd'un point de vue sériel, ça aurait été une année, alors féministe, ça c'est un mot fourre-tout, mais en gros, il y aurait eu quand même plein de personnages féminins et de séries politiquement assez. Tu as réussi à en choper 3 rien que dans ces années-là. Si on rajoute The Handmaid's Tale et Alias Grace, ça commence à faire quand même un beau corpus de séries qui ont finalement, elles aussi, quelque part, annoncé quelque chose et dénoncé quelque
chose. Mais le monde des séries, si j'aime autant le monde des séries, c'est que pour moi, il est quand même très progressiste. Et ça fait plaisir de voir des choses comme ça qu'on ne voit pas au cinéma ou qu'on verra au cinéma dans 5 ans.
Charlotte.
Alors moi, je vais en rajouter une, en fait. J'étais évidemment partie sur I Love Dick. Sorry. Qui est merveilleux. Bon, écoute, on se vole des séries, c'est pas grave. Moi, j'ai adoré Dear White People, qui est une série chorale, mais qui est quand même portée par une femme.
Paumée au fin fond de Netflix, en personne n'en entend parler.
Oui, mais en fait, il se trouve que j'avais adoré le film quand il était sorti. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et qui raconte en fait l'élite étudiante américaine et toutes les luttes qu'il y a au sein même de cette élite étudiante qui ne parvient absolument pas à accorder ses violons et à s'entendre entre eux, et où tu as les fratries, alors qui est très basée sur les Afro-Américains d'un côté, les Asiatiques de l'autre, les Blancs, les Noirs qui veulent être Blancs. Il y a une espèce de mélange de jalousie, de messages politiques. Et tout ça est plus ou moins arbitré par une jeune fille qui fait une émission de radio, qui fait un podcast,
c'est moderne, le podcast.
Et qui s'appelle Dear White People, qui à la base était un peu une sorte de blague qu'elle avait avec sa meilleure amie, où elle balançait aux Blancs leur cas de vérité, mais sur le ton de l'humour, et qui est devenue pour elle une arme politique, et grâce à laquelle elle va pouvoir organiser des manifestations, combattre notamment dans cette saison 1 les bavures policières. Et il y a plein de qualités dans cette série. Il y a la musique, il y a la réalisation qui est superbe, mais surtout il y a des dialogues. Moi, quand j'écoutais, j'entendais Aaron Sorkin dans ma tête. Il y a une intelligence, une rapidité, une fulgurance d'écriture qui est éblouissante.
Passe-moi.
Alors moi, je vais rester dans la thématique féministe. L'avantage d'avoir 3 femmes dans un podcast.
Moi, j'ai pris une grosse série de machos derrière pour compenser. Je déconne.
Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour Glow sur Netflix, qui est une série...
Ah oui, c'est vrai, on peut la rajouter, celle-là.
Qui est vraiment pas mal, qui est assez transgressive et qui surfe aussi un peu sur la nostalgie des années 80, mais complètement différemment, en se focalisant sur les femmes. Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que l'héroïne, la femme qui porte Glow, en fait, est complètement antipathique. C'est une femme qui a trahi sa meilleure amie, qui a couché avec... son mari, etc., et qui se retrouve, parce que elle est actrice et qu'elle est un peu loser et qu'elle réussit pas ses castings, elle se retrouve castée comme étant le vilain de service d'une émission, de la première émission de catch de femmes des années 80. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, que chaque épisode apportait son lot de femmes différentes. C'était drôle, c'est déluré, c'est hyper transgressif. Et puis surtout, il y a un épisode qui est assez intelligent en soi, qui parle de l'avortement, mais de manière... comment dire, comme dans les années 80, c'était pas un mot qu'on utilisait, et surtout avec beaucoup de réalisme et d'empathie pour le personnage principal qui a ses raisons pour cet avortement et qui en même temps au départ était complètement antipathique.
Et j'ajouterais pour ma part Legion, série Marvel, pas du tout comme une série Marvel, trip visuellement et narrativement sidérant, fascinant. Moi j'avouerais que dans mon classement des meilleures séries de l'année, je la mets devant The Handmaid's Tale, mais pour d'autres raisons, pas pour le fond, mais juste parce que je trouve que c'est un objet extraordinaire, complètement fascinant, plongé dans l'âme d'un super-héros malade, pas vraiment un super-héros d'ailleurs, même s'il a des super-pouvoirs. Pour moi, une claque absolue, la meilleure série de l'année, tant pis, même si je peux comprendre qu'on puisse ne pas rentrer dans son délire, il y a plein de gens qui sont pas rentrés dans Legion, mais pour ceux qui sont rentrés, ça a été un pied extraordinaire, que j'ai trouvé ça bouleversant, j'ai trouvé que ça disait plein de choses magnifiques sur la solitude, sur la difficulté à aimer, sur ce qu'il y a de sublime à arriver à aimer, à être aimé. Enfin, je trouvais que c'était une romance extraordinaire, qu'il y avait des acteurs dingues. Et puis, en termes de mise en scène, on peut trouver que c'est poseur et que ça frime, mais c'est hallucinant. Il y a pas un plan qui soit pas une imagination imaginatif. Et moi, quand je vois une série comme ça, j'applaudis des quatre mains et j'ai envie qu'il y en ait plus, quoi. Oui, j'ai quatre mains, ça se voit pas. Voilà. Bon, bref, moi, je voulais mettre en avant cette série là aussi. Allez, un dernier gros événement inévitable de cette année écoulée, presque une nouvelle série, mais un retour qui dit son nom pour le coup. Twin Peaks: The Return, chef-d'œuvre absolu ou gloobie-boulga prétentieux, coup de maître ou délire incompréhensible, on en a déjà débattu un petit peu ici. C'est un retour, mais c'est presque une nouvelle série. C'est pour ça que je l'ai glissé là avant de parler des retours. Je vais pas demander à Charlotte ce qu'elle en pense. Si, je te demande, Charlotte, ce que tu en penses.
Non, mais honnêtement, je suis capable d'être objectif sur Twin Peaks, je vous jure, c'est possible. Donc, il y a des épisodes nuls. Voilà, il y a des épisodes nuls, des épisodes où on s'ennuie. Oui, ça y est, David Lynch me parle plus
pardon,
jamais,
c'est David
fini.
Oui, David, oui, il dit c'est fini.
Je serai la dernière à l'aimer, ok?
D'accord.
Jamais je lui tournerai le dos. Mais je trouve extraordinaire que 27 ans après Twin Peaks, il ait encore fait quelque chose qui n'a jamais été fait avant et qui ne sera jamais fait après. Il a des épisodes qui sont des miracles. Enfin, l'épisode du 8 dont tout le monde a parlé, qui est le truc... Tu vois, tu parles de la réalisation de Légion, mais la réalisation de cet épisode 8, entre Terrence Malick et un espèce de
bat trip... Pour moi, c'est une installation d'art contemporain, hein, cet épisode. Hein.
C'est, ah non, ça c'est Channel Zero. Non, il y a de tout, parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire qui nous sort de l'histoire, d'ailleurs. C'est un épisode sublime, en noir et blanc, qui est une vraie rupture dans la série. Moi, je trouve que David Lynch, il a fait deux choses extraordinaires. Il a fait une révolution à plus de 70 piges en série, c'est-à-dire un lieu où il y a de l'expérimentation tous les jours, et il a réussi à surpasser tout le monde.
Je suis pas sûr que ce soit une révolution pour ma part. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu et qu'on reverra sans doute jamais. Par contre, je pense
ça
pas qu'il apporte.
Ça s'appelle une révolution.
Non, oui, sauf que il aura, enfin, voilà, mais il y aura enfin, pas d'influence. Il y aura pas d'influence. Une révolution, ça éventuellement, ça change les choses. Je suis pas sûr que Twin Peaks: The Return change grand chose.
Je pense que ça peut provoquer des envies. Je pense que ça peut débloquer des choses.
Oui, sauf que David Lynch, on lui dit vas-y coco, c'est toi plaisir. Les petits nouveaux qui auraient fait. Oui, alors je voudrais avoir les mêmes conditions de travail que David Lynch. Il va pas faire lui fond.
Non, mais c'est pas qu'une question de conditions de travail, c'est une question d'imagination aussi, chouchou.
Oui, sauf que on a laissé le droit à Lynch de faire ce qu'il voulait, quoi. On
oui,
laissera
parce que
pas
c'est
le
David
droit.
Lynch.
Bah oui.
Ouais, ne me cassez pas mes espoirs.
Moi, j'ai trouvé quand même cette saison. D'ailleurs, je me suis arrêtée à l'épisode Big Bang. Après, j'étais un peu fofolle. Je me suis maté 3 épisodes d'affilée, je crois, ou 4 de Twin Peaks. Donc, après l'épisode du Big Bang, j'ai.
Tu sors tout juste repris. De l'asile, d'ailleurs. Hein,
ce non, mais c'est mort. Ça. J'ai dû me. Mais en fait, je. Bah, alors demain, il y a une partie de moi, la fan des premières saisons de Twin Peaks, qui était un peu déçue parce que j'aurais voulu retrouver une histoire. Enfin, une histoire, quoi, un récit qui se tient, des personnages, même voir des nouveaux personnages. Mais là, clairement, David Lynch, il fait un gros fuck à la fois au cinéma, au format cinéma et au format sériel, en fait. Enfin, il décide que lui, son art, on lui a donné carte blanche, il le fait. Donc, effectivement, il y a des épisodes intéressants, il y a des personnages qui sont, c'est quoi, c'est Dougie. Dougie, il a un truc, il est à la fois, moi, il m'énerve et en même temps, il est attachant. Et j'ai pareil cette répulsion, fascination pour des épisodes d'une lenteur. Mais ça, c'est vraiment une façon de dire ah bah t'as vu les séries les séries qui sont tendance maintenant là avec une image par ah bah moi je m'en fous. Je vais passer 10 minutes, 20 minutes à filmer ce type qui se balade dans un truc de jackpot. Ouais d'accord ok, j'admire le geste, mais franchement
c'est plus intéressant en tant que voilà. Du mec qui balaye les cacahuètes par terre.
Je crois
en tant,
qu'on tient,
ouais,
on
en tant
tient
que téléspectatrice, des fois t'as vraiment envie, enfin tu t'endors devant
on
en fait, c'est ça le problème.
Est-ce que on tient le mot, c'est un geste.
Oui, c'est un geste.
Oui. Mais alors, est-ce que c'est une série
de fuck? C'est un doigt d'honneur.
C'est un geste qui est parfois sublime et parfois chiant à mourir. De là à dire que c'est une série, et la question se pose. En tout cas, on en parlera. J'espère qu'on en parlera longtemps de ce Twin Peaks. J'espère pas qu'il y en aura d'autres. Faut s'arrêter.
Non,
enfin, je
non,
sais
je
pas.
Suis d'accord,
ouais, voilà. C'était
puis,
une
fin,
proposition.
Qui moi, ça te fait beaucoup. Donc, c'est
j'espère réussir à finir un jour cette saison.
Mais oui, quand même.
En 2017, nous avons vu revenir d'autres séries que Twin Peaks, pour le meilleur et pour le pire. On en parle.
Spotty, you are such a nerd.
Shut up.
No wonder you only hang out with boys.
Erica?
Just the facts.
Oh my god, I love this costume.
Okay. All right, that's the last one.
No, just one more. Come on, please.
Championne du marketing, du buzz et du bourrage de crâne médiatique, Stranger Things est revenue et a eu le bon goût de ne pas faire l'unanimité. Je fais partie des modérés, amusés mais perplexes devant les longueurs narratives, les déséquilibres et les maladresses de ce qui n'est pas plus qu'un honnête divertissement à mes yeux. Suis-je le seul à cette table ? Je suis le seul à cette table.
Non, moi je suis un peu d'accord avec toi en fait. Je je vois les limites. Je trouve que scénaristiquement, cette saison 2, elle est à la fois, elle est prévisible, elle est facile. On fait venir de nouveaux personnages. La recette est vraiment, on décide qu'il y a un monstre un peu plus important qui peut encore plus foutre la merde à Hawkins. On développe de nouvelles relations. Mais en fait, je trouve ça assez bien fait. Ce qui fait que moi, pourtant, alors on avait une émission sur le binge-watching, mais je suis pas une grande binge-watcheuse de l'extrême. Et c'est vraiment, pour le coup, genre de série, je sais pas, j'ai regardé en deux jours, j'ai regardé cinq épisodes et c'était fait, quoi. Parce que c'est divertissant, et les références rétro des années 80 et compagnie, je comprends que ça puisse énerver les vieux de la vieille qui ont tout vu et qui crient au plagiat. Il y a une scène entre Steve et Dustin que tout le monde a adoré sur des rails, c'est un putain de plagiat de Stand By Me. Je sais, mais en fait, là où ils sont forts quand même, les frères Duffer, c'est qu'on s'attache aux personnages et même aux nouveaux aussi. Et du coup, on regarde ça d'une manière. Mais pour moi, c'est un divertissement bien foutu. Mais artistiquement, je comprends que ce soit contestable.
Et c'est parce qu'on est attaché aux personnages que je trouve que d'avoir séparé Sortine des gamins, c'était une grosse erreur. Asma, je glisse ça juste là.
Alors moi, je fais partie des fans incontestés de Stranger Things parce que ça parle à mon émotion et à la petite fille qui a grandi dans les années 80 et à la cinéphile aussi. Bizarrement, moi, j'ai adoré le fait qu'on tire Eleven en dehors justement de ce petit groupe d'amis parce qu'elle était l'élément central de la saison 1 et là justement ça permet de dessouder et ressouder ce petit groupe d'amis tout en permettant à ce personnage d'avoir un espèce de voyage initiatique et de rechercher son identité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vachement décrié l'épisode qui lui était consacré à Chicago et moi justement c'est un des épisodes que j'ai le plus aimé parce qu'elle se découvre avec d'autres personnes, elle découvre un côté rebelle, elle découvre son émotion, elle s'attache à sa sœur, on va dire, avec qui elle a grandi en quelque sorte, avant de revenir, c'est très Joseph Campbell, c'est assez classique, ça ne sort pas des carcans de ce qu'on connaît narrativement, mais je trouve que ça marche et ça donne encore plus de profondeur au personnage.
Charlotte ?
Ah, moi, je vais citer un grand sage, Marilyn Manson. Le divertissement n'est pas un gros mot.
Absolument
pas. Et moi, je dis merci à Stranger Things pour ce week-end merveilleux que j'ai passé avec mon amoureux à regarder mes 9 épisodes comme une maboule.
Et ben voilà, c'est une bonne façon de résumer les choses. La nouvelle saison de Game of Thrones aussi n'a pas fait que des heureux, en accélérant peut-être un peu trop vite son récit, c'est moi qui le dis, en étant plus spectaculaire mais moins fin. Ça aussi, c'est mon point de vue et seulement mon point de vue. Là aussi, certains se sont éclatés, d'autres ont regretté les saisons passées. Où vous situez-vous, chers amis?
Ah, moi, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais vraiment perdu depuis longtemps. Ouais. Ça va plus vite, on arrête de se faire chier.
Ils ont découvert.
Ça va droit au but, c'est super. C'est
Et on s'en fout que ça soit complètement n'importe quoi.
Ça tirait beaucoup sur la longueur, ça jouait beaucoup entre les personnages avant. Et là, on file droit vers ce que tout le monde attend, l'affrontement. Et surtout, Cersei sur le trône, moi, je trouve ça génial.
Alors, moi aussi, je suis d'accord. Cersei sur le trône, alors que ce personnage, pendant longtemps, les premières saisons, il m'énerve. Enfin, je la détestais. Ça, je trouve ça génial. Et j'aime beaucoup sa trajectoire à Cersei. Et limite, en fait, j'ai envie que Game of Thrones se termine avec Cersei sur le fucking trône. Enfin, je trouve ça plus fun en fait, que ça serait plus drôle que ça finisse comme ça, mais bref. Mais par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que plus d'accord avec Pierre, c'est moins le Game of Thrones que j'ai aimé, que j'ai apprécié des premières saisons. Moi, j'ai eu l'impression de faire face à un blockbuster américain qui certes est du coup très divertissant avec tous ces dragons et tout, mais qui fait des raccourcis incroyables et il y a plus ce jeu des trônes du House of Cards de fantasy. Il y a plus trop les techniques, les stratégies de Daenerys, des fois on se dit mais elle est débile, mais qu'est-ce qu'elle fout? Pourquoi elle va là? En fait, elle devrait pas faire ça.
Ce qui c'est pas parce qu'il y a plus de matériel narratif derrière, il y a plus George Martin derrière. Clairement. Avec son roman qui permet justement de nourrir une série qui aurait pu être encore beaucoup plus longue en fait.
Et elle a toujours un gros problème de rythme.
Là, je suis complètement d'accord avec toi. On sent qu'ils sont un peu perdus avec les personnages, qu'ils ont des éléments mais qu'ils savent pas trop où aller. D'où l'ellipse, d'où le. Après, enfin, tout dépend de comment tu regardes Game of Thrones. Soit c'est un divertissement, soit tu t'intéresses vraiment à la psychologie des personnages.
Mais les deux, en général, je citerai un grand sage, Marilyn Manson, qui disait. Non, mais sérieusement, en fait, moi, ce qui m'a embêté, c'est que c'est super cool, j'adore l'action et tout, même si tonton machin qui déboule de nulle part pour sauver l'autre, là, ça ressemble à rien, on s'en fout complètement. Mais seulement, moi, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait du divertissement, mais que les personnages n'étaient pas des caricatures. Et là, je trouve que dans cette dernière saison, les personnages, en fait, sont ramenés à leur fonction narrative, ce qui, pour moi, est un gros problème. C'est-à-dire que c'est presque plus des marionnettes au service de l'histoire, là où Game of Thrones avait été assez maligne pour éviter ça jusqu'ici. Il faudrait peut-être, et je l'espère, j'ai foi en les scénaristes, qu'ils oublient pas que si on s'est accroché à cette série, c'est pas parce qu'il y a des super dragons trop cool, enfin en tout cas pas moi, c'est parce qu'il y a des personnages que je trouvais complexes et ambigus et qui me faisaient réfléchir et que j'aimais détester, que je détestais aimer. Et j'espère qu'on va pas oublier ça et que Game of Thrones, ça va finir en méga baston intersidéral et qu'on oubliera complètement que c'était fin. mais je pense qu'ils vont être assez malins pour trouver le bon équilibre, en tout cas pour le retrouver. N'oublions pas les Françaises. Deux retours marquants ont eu lieu chez nous en 2017, le Bureau des légendes et 10%, le Bureau saison 3 qui confirme la domination difficilement discutable du thriller d'Éric Rochant sur le paysage sériel hexagonal, on l'a dit ici, on l'a dit avec les prix de la CS aussi, puisqu'on a récompensé le Bureau des légendes. Est-ce qu'on peut très simplement confirmer ça, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord et qu'il y a mieux que le Bureau des légendes à la télé française?
A priori, moi, pour moi, la télé française, les meilleurs, c'était Engrenage et Un village français. Le problème, c'est qu'étant à la bourre sur ces deux séries et être un tout petit peu plus pas à la bourre sur le Bureau des légendes, je vais te dire que oui, et de toute façon, c'est du même niveau que les deux précédentes que j'ai citées. Donc oui, le Bureau des légendes, toujours série incroyable, qui a toujours une qualité, qui prend des risques et une qualité de saison en saison. On peut dire oui, on préfère quand ils sont dans le bureau en train de parler et moins quand ils sont dans l'action, ou le contraire.
Moi, c'est l'inverse, ouais.
Toi, c'était voilà. Mais c'est des débats de critiques précis. Au global, qualitativement, surtout vu la pauvreté, je trouve, des séries françaises actuelles, le Bureau des légendes sort complètement du lot.
Tout le monde est d'accord.
Alors, écoute, moi je vais citer un grand sage, Marilyn Manson, je ne l'ai pas vu, j'étais en tournée.
C'est pas mal, il a dit ça aussi. Effectivement, 10%, on a aussi parlé évidemment de cette série ici dans un épisode des Jarrettes. À ce moment-là, on n'avait pas vu toute la saison 2, je me souviens, je crois, et on était encore à dire que ça valait la 1. Moi, avec le recul, je trouve quand même qu'elle était un poil moins bien, cette saison 2, que la saison 1, mais j'ai toujours l'impression qu'il n'y a personne qui est au niveau, alors pour citer un sage, Marilyn Manson, niveau divertissement à la télé française, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa, 10%. C'est vraiment rythmé, frais. Et drôle, oui.
C'est moderne, c'est bien écrit quand même. Après, on peut regretter certaines trajectoires comme celle de l'héroïne. Moi, j'ai pas trop aimé la trajectoire qu'elle a prise.
On a beaucoup contesté ses choix de sexuels, notamment. Enfin, en tout cas, de soirées alcoolisées.
Ça aurait été bien d'assumer, pour une fois, qu'on avait une lesbienne dans une série où on n'en parlait pas pendant trois plombes. C'était pas un problème, ça gênait personne. C'était cool, on était bien. Il faut qu'elle couche avec un homme. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi.
Ça, c'est vraiment un trope, en plus, dans de nombreuses séries, dans les récits, c'est la lesbienne, mais en fait on part du postulat que pour intéresser quand même le grand public, il faut qu'elle ait une aventure avec un mec d'une manière ou d'une autre, et du coup ça c'est assez dommage.
Détail fâcheux, mais qui ne pourrit pas la série quand même.
La série a cartonné comme ça.
Et j'aime pas trop le personnage du mec aussi, enfin je le trouve problématique, hyper caricatural.
Il était là pour ça justement, il était là pour poser des problèmes.
Ouais, on dirait un espèce de grand méchant, et les autres ils sont parfois un peu caricaturaux, mais je sais pas, il y a plus une légèreté, un côté bon enfant. Lui, il arrivait vraiment, je sais pas, il s'était trompé de série quoi. Pour moi, il n'arrivait pas dans la bonne série. Même.
C'est pas pour autant qu'on va bouder notre plaisir. Moi, j'attends la troisième saison et j'espère peut-être qu'ils ont appris des erreurs de la deuxième. Ça sert souvent à ça, les deuxièmes saisons. C'est un peu le truc où on se ramasse. La première, c'est coup de grâce. Enfin, on a pas coup de grâce, pardon. C'est éclairage. C'est d'un coup, on a
état de grâce.
Merci. et ensuite, on expérimente un peu et peut-être que la troisième saison sera la meilleure. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas à 10%. Je m'excuse par avance pour le son qui va suivre.
Did I think about you? Did I want to call you? Did I want to be with you, Kevin? Of course I did. But so much time had passed. It was too late. And I knew that if I told you what happened, that you would never believe me.
I believe you.
Après celles qui sont arrivées et celles qui sont revenues, c'est l'heure de pleurer celles qui sont parties, à commencer par la sublime de Leftovers, rentrée au panthéon des chefs-d'œuvre sériels après seulement trois petites saisons. Par pitié, que personne autour de cette table ne conteste cette affirmation.
Ben non. Mais effectivement, je t'en veux vachement d'avoir mis ce sonore. Je crois qu'il n'y a pas une série qui va me manquer davantage que The Leftovers. Pourtant, c'est relou quand une série s'arrête, quand Lost s'est arrêté. D'ailleurs, c'est pas un hasard. C'était super dur. Mais là, on savait. Enfin, pour moi, c'est une histoire d'amour vraiment qui s'arrête. C'est quelqu'un qui part. Je déteste ça.
Justement, pour une série sur le deuil, je trouve que c'est...
Ah, mais tu vois, je t'ai pas armée, même après 3 ans de Leftovers.
Oui, mais c'est beau, justement, de nous laisser sur notre faim et d'essayer de faire notre deuil d'une série, justement, qui te parle de deuil et de la mort, quoi.
Jamais. Moi, je vais faire une confession, j'ai même pas vu la fin, parce que ça fait partie de ces séries qui étaient... parfois dure à regarder parce qu'elle me mettait dans un état, même si je suis sûre qu'on peut voir de la lumière, etc., dans cette série, et qu'il y a des très belles choses et de très beaux sentiments, un état quand même de, je sais pas, je suis très sensible à tout ce qui peut être nostalgique et ça peut me rendre extrêmement mélancolique et me mettre dans un état qui est très compliqué ensuite à gérer. Et en plus, ce genre de série que j'ai chérie, j'en ai un petit paquet de séries que j'ai adorées. Et quand j'arrive sur la fin, Fringe m'avait fait le même effet. J'ai jamais vu les derniers épisodes de Fringe encore aujourd'hui parce que je sais pas. Je me dis, il y a un truc qui fait que je me dis, ah, je vais la regarder après et j'arrive pas à les finir parce que j'ai pas vraiment envie de les finir. Mais bon, je le ferai pour The Leftovers.
Je pense que The Leftovers est une série faillible qui a des défauts, mais qui pour autant, pour moi, la plus belle chose que j'ai pu voir en série, la série la plus sublime que voilà de ma courte existence. Il y a tout dans cette série pour moi. On en a parlé ici. On a fait une émission en entier sur cette série. Jusqu'au bout, c'est quelque chose qui est d'une force émotionnelle, qui dit tout. C'est pour ça qu'elle est quasiment incritiquable et indiscutable, tellement c'est complexe et tellement, à mon sens, elle parle d'absolument tout ce qui fait la vie. Et je pense que je la reverrai et je la relirai et je la reanalyserai. J'essaierai de la comprendre. Mais rien que d'entendre le son que je vous ai mis là, ça me met des frissons dans le dos, et il y a des scènes de The Leftovers où il y a des choses qui sont dites d'une simplicité a priori, d'une banalité ultime, mais elles sont dites d'une façon qui me bouleversait profondément, et c'est pour ça que pour moi c'est un ultime chef-d'œuvre. Je sais pas ce qu'a bouffé Damon Lindelof et les gens qui ont travaillé avec lui, mais pour moi ils ont fait de l'alchimie. C'est presque dangereux émotionnellement et artistiquement d'avoir réussi à ce point à raconter une histoire si complexe. Enfin, je avec tout le respect que j'ai pour David Lynch, il ne m'a pas ému comme a pu le faire The Leftovers. Il est certainement extrêmement fort, mais
il raconte pas du tout la même chose.
Il raconte pas la même chose.
Détaché des humains et de la planète Terre depuis si longtemps, David Lynch.
Là, The Leftovers, c'est vraiment une série sur l'humain, en fait. C'est aussi complexe qu'un être humain, qu'un individu, en fait. C'est ça qui est beau.
C'était sublime et c'est triste de se dire que ça ne reviendra pas, mais c'est là et on pourra la revoir plus tard. Partie aussi, plus difficilement à mon sens, Girls, qui aura, quoi qu'il en soit, marqué l'histoire récente des séries, même si on peut toujours, moi il y a un moment où j'en avais un peu ras-le-bol. Mais quel est votre avis autour de cette table ?
Alors tu vois, en ce moment il y a le débat, on va pas du tout rentrer dedans, de séparer l'artiste de l'œuvre. Et alors moi, Lina Dunham, elle me tape tellement sur les nerfs que ça m'a gâché mon visionnage. Pour autant, je l'ai terminé et je trouve que la dernière saison est bien meilleure que les deux qui l'ont précédée et qu'elle a réussi par un espèce de tour de force à conclure son histoire et cette histoire d'amitié qui nous avait intéressés 6 ans auparavant. Mais en fait, je trouve que d'année en année, ce qu'elle raconte, ou en tout cas ce qu'elle veut raconter, lui ressemble plus. Et moi, j'ai du mal à croire dans la sincérité de cette série. Ce qui me brise le cœur, parce qu'à l'époque où elle était sortie, on parlait tous d'un petit miracle. Et le miracle, pour moi, c'est un peu éteint. Même si, malgré tout, je trouve que cette dernière saison était très belle.
Je suis assez d'accord sur l'ensemble de ce que tu as dit, Marion.
En fait, évidemment, dans les cas comme ça de presque autofiction, où le ou l'autrice ou l'auteur met énormément de lui dedans, on se sent un peu comme trahi quand la personne publique a des réactions qui sont complètement à l'opposé de ce qu'elle raconte dans sa série. Donc effectivement, c'est difficile de se dire qu'il y a une Lena Dunham qui artistiquement, quand elle écrit et qu'elle prend sa plume, elle a tout compris. Enfin, il y a certains épisodes magnifiques de cette dernière saison. Moi, j'ai adoré l'épisode American, comment il s'appelle, sur un épisode en huis clos avec un écrivain américain qui est accusé de, et ça aussi c'est vraiment dans l'air du temps, qui est accusé de harcèlement sexuel par différentes collaboratrices, et elle va rencontrer, elle va chez cet écrivain qu'elle admire, et la complexité des relations entre les deux et la manière dont elle doute, c'est cet épisode, il est brillamment écrit, quoi. Et à côté de ça, elle nous sort des tweets et des trucs où t'as juste envie de la taper. Mais donc c'est assez compliqué, effectivement. Mais par contre, juste sur la série Girls, que moi c'est vraiment une de mes séries préférée au monde. Je veux dire, si je dois faire un top 10 de mes séries préférées au monde, elle est dedans, quoi. Parce que pour moi, elle a vraiment, elle a cassé un plafond de verre sur le côté mettre en scène des femmes dans toute leur complexité, qu'on peut ne pas aimer, être totalement antipathique. Il y en a sans doute eu quelques-unes avant, mais là, elle me parlait aussi parce que j'ai grandi avec cette série. Mon féminisme a grandi avec Girls, et c'est pour ça que je suis très énervée, parce que maintenant que je suis vraiment féministe, je me rends compte de toutes les problèmes que pose une personnalité comme Lena Dunham. Mais la saison 6, je l'ai trouvée artistiquement plutôt réussi.
Moi, j'ai toujours été confronté à un problème avec cette série, c'est qu'à la fois, j'avais l'impression de voir quelque chose d'unique, de voir quelque chose de fort, de voir quelque chose... Alors, en plus, on n'en a pas parlé là, mais après, c'est peut-être un point de vue masculin, mais avec des personnages masculins géniaux. Enfin, il y a des personnages raies. Moi, je veux voir une série sur ce mec. J'adorais ce personnage. Et en même temps, je sais que ça fait partie de sa démarche, qu'il y avait une forme de provocation et tout, mais c'est une série qui m'a aussi beaucoup agacé. Et ça m'a... Il y a un moment où en fait l'agacement a dépassé l'intérêt et où je me disais en fait elle commence à me saouler Lena Dunham et j'ai peut-être tort, c'est peut-être mon regard masculin, etc. Le fait est que je pense qu'elle a sur réécrit son message peut-être avec moins de finesse que ce qu'elle voulait vrai, que ça disait en fait. Je pense que c'est une série qui a dit plein de choses hyper fortes, hyper justes et qui à force de les mettre in your face de manière de moins en moins subtile a peut-être perdu un petit peu de sa force avec le temps. Asma.
Ben moi, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai arrêté très très tôt, Girls, justement, parce que en tant que féministe, je trouvais que ça défonçait des portes ouvertes assez souvent. C'est un peu moche ce que je dis,
mais c'est ton
je pense
opinion.
Que c'est vraiment dû peut-être au personnage de Lena Dunham. Elle pouvait appuyer sur des choses très intéressantes et en même temps faire du gros stéréotype, comme tu le disais tout à l'heure. Et sincèrement, moi, j'ai eu beaucoup de mal à continuer cette série, même s'il y avait des personnages qui étaient assez intéressants. Mais je trouvais qu'ils étaient parfois un peu burlesques ou comiques. Et je sais pas, j'avais du mal à adhérer à ce truc-là.
N'oublions pas quand même qu'elle a commencé Girls à 26 ans. Et,
elle a évolué.
Ah, mais qu'elle soit brillante, ça, je crois que c'est difficilement
Oui, mais juste, ouais. Et elle parlait de ce qu'elle était à peine en train d'expérimenter et du coup ça c'était vraiment j'ai eu l'impression en fait la trahison vient de elle a grandi, j'ai l'impression que son féminisme a grandi, j'avais cette impression là en tout cas dans l'écriture et on en arrive à cette saison 6 qui était très bien. Et à côté de ça, elle a des propos qui sont complètement incohérents avec son geste artistique et ça je comprends pas.
Un mot quand même de deux séries françaises qui ont disparu cette année, parce que c'est deux piliers de la télévision et des séries françaises. Fais pas ci, fais pas ça, d'une part, qui a quand même duré 9 saisons, ce qui est assez rare à la télé française. J'en vois qui grimacent autour de la table, mais ça a son importance. Et Un village français, qui s'est terminé très récemment sur France 3. Je ne voulais pas faire cette émission sans leur rendre hommage d'une façon ou d'une autre, parce que je pense que c'est deux séries qui ont compté énormément. Donc, est-ce que vous me laissez développer ça tout seul ou est-ce que vous voulez m'accompagner? Je ne sais pas. Je vais donc parler tout seul. Personne.
Non, moi, j'étais en tournée pendant Fais pas ci, fais pas ça.
D'accord.
Moi, j'ai regardé un peu. Fais pas ci, fais pas ça. Je trouvais ça marrant.
Non, mais par contre, en revanche,
pardon, dis-moi, je t'en prie.
Sur Un village français, Charlotte.
Non, mais sur Un village français que j'ai découvert sur le tard et donc que j'ai rattrapé à toute vitesse en tombant amoureuse. Enfin, le truc improbable de moi qui disent non, mais c'est bon, ils me saoulent avec leur village français, ça va, je peux regarder France 3, faut pas déconner. En fait, c'est juste extraordinaire, ce truc. Et là, je trouve que la direction qu'ils ont choisie pour la fin, ce côté fin de Six Feet Under version ralentie là c'est magique et je trouve ça magique aussi. On dit beaucoup que la série française va pas hyper bien, qu'on va pas assez loin et tout, mais je trouve qu'une chaîne est acceptée d'avoir ce genre de fin à une série qui était quand même dans un format classique et de tout casser au dernier moment en faisant des flash forward, en grimant les acteurs, c'est bon signe quand même.
Donc on peut dire tout le bien qu'on pense d'Un village français. D'ailleurs, on l'a dit il y a pas longtemps, cherchez bien podcast dur de date du mois de novembre où on est revenu longuement sur Un village français. Dire un petit mot quand même donc de Fais pas ci, fais pas ça. Oui, qui est pas la plus grande série de tous les temps mais qui était une vraie belle comédie familiale avec des personnages attachants, fait partie de ces séries que moi je regardais quasi essentiellement pour voir les personnages et les acteurs qui les incarnent, que je trouvais vraiment attachants et qui étaient devenus les personnages, ce qui est pas si commun que ça à la télévision française. Et il y a eu de très belle trouvaille, il y a eu des inventions scénaristiques, narratives, il y a eu des choses dites sur la société française, alors évidemment c'était pas la révolution non plus, mais qui était plutôt fine et bref, au final j'ai souvent ri en regardant Fais pas ci, fais pas ça, et ça faisait partie de ces séries charentaises, de ces séries confortables mais intelligentes et bien foutues et ça, c'est bien qu'elle s'arrête, elle a fait son temps, elle a vécu, il faut, mais ça serait bien qu'on en trouve une comme ça. Bah, il y a 10% finalement, qui est presque sa descendante, qui est plus moderne, plus avancée, mais qui somme toute pourrait avoir le même effet que Fais pas ci, fais pas ça. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite parce qu'elle a eu une belle vie. Fais pas ci, fais pas ça.
My father instilled in me a love and respect for this company that has never faded. This is my home.
Rand is my company.
This city is no place for Danny Rand.
We put in practice and discipline. No giving up, no giving in.
Danny, what happened to you?
Why are you really back here?
Some bad people have gotten on the inside. Criminals.
I know what they are, what they can do. To fight them, we need someone with special skills.
I've been training my whole life for this.
Prenons 10 minutes pour être méchants, chers amis, à la fin de cette émission et pousser nos coups de gueule critiques, à commencer par Iron Fist, dont on vient d'entendre la bande-annonce, et dans une moindre mesure, The Defenders, double raté pour Marvel et Netflix, ça c'est moi qui le dis cette année, même si The Punisher finalement a récemment un peu sauvé la mise, je trouve. Commençons par ça, parce qu'en gros, je crois que Iron Fist doit être la grosse série qui a le plus morflé d'un point de vue critique cette année.
C'était nul.
Merci Asma. Et alors ensuite on passe à... Non, je déconne. Est-ce que vous voulez dire un peu plus que ça?
Bah sincèrement, enfin pour en plus un acteur qu'on connaît déjà, qui a gardé ce bon vieux Loras Tyrell,
Finn Jones, dans Game of Thrones.
Dans Game of Thrones exactement. Ça a été vraiment la série qui faisait du grand n'importe quoi en fait dès le début. Moi je pense qu'il y a un symbole qui peut le plus caractériser la série, qui m'a le plus agacé, c'est comment il s'appelle déjà l'Iron Fist, pour vous dire à quel point ça a marqué.
Danny Rand
sur la montagne en mode moine bouddhiste en train de faire son petit moment zen, voilà. Ouais. Et ça revenait pendant les 2-3 épisodes, et tout à côté était stéréotypé, le gamin qui revient, le retour de l'enfant prodigue que personne ne reconnaît mais qui a des super pouvoirs mais qu'on comprend pas, enfin bref, c'était du Lois and Clark mais du pauvre quoi en fait.
Charlotte, t'étais en tournée ou tu l'as vu?
Alors j'ai essayé, mais en fait ce que je voulais dire tout à l'heure sur Légion, mais t'étais tellement passionnée, c'est que je déteste les séries de super-héros, mais à un point mais inexplicable, et j'ai adoré Légion, et tant que t'es pas à ce niveau-là, je ne te regarderai pas en fait. Donc Iron Fist, t'es bien gentil, mais tu dégages, et puis tous ces machins-là, enfin si tu veux, la facilité de se dire on est sur des icônes, on est sur de la pop culture, et du coup on va faire aucun effort autour parce que les gens vont regarder, faut vraiment arrêter de nous prendre pour des cons maintenant.
Mais
maintenant quoi.
Mais le problème, moi je pense que le problème Iron Fist a été un peu bâclé effectivement, de toute façon, de toutes les manières, la réal, enfin les effets spéciaux ridicules.
Et puis l'acteur a du charisme de parc-maître, alors
les chorégraphies sont hyper nulles par rapport à celles des autres super justiciers. Le problème c'est aussi que le personnage d'Iron Fist, il est beaucoup moins complexe, beaucoup moins moderne. C'est un petit enfant, c'est vraiment c'est du super-héros old school, alors que Jessica Jones, elle a des choses à dire sur notre société, Luke Cage aussi, même Daredevil et ses prises de tête religieuses, c'est intéressant. Et du coup, ce personnage-là, à côté, il paraît hyper fadasse de base. Donc de base, déjà, vouloir adapter Iron Fist, moi je trouve que c'était... Netflix s'en est pas rendu compte, de toute façon il y avait un deal, donc ils étaient obligés de la faire. Mais je pense que ça collait pas à l'air du temps comme les trois autres de base. Enfin,
Même Punisher plus récemment.
Ouais, pareil, Punisher, ça colle à l'air du temps.
En plus, quand tu vois Punisher, tu te demandes ce qu'Iron Fist fait là, en fait.
J'aimerais bien une baston Iron Fist Punisher. Ça serait pas mal. Alors, autre punching ball du moment, The Walking Dead. Un mot quand même sur cette fin de saison 7 absolument démentielle, au sens comique du terme. Je n'ai pas vu la saison 8, donc je vous laisse vous-même me dire si c'est mieux que précédemment. Mais puisqu'on est là pour être méchant, moi je voulais au moins pouvoir une fois dans ce bilan être méchant et dire à quel point The Walking Dead, ça sera ma grande déception des siècles à venir, puisque encore une fois je tiens à dire que c'est une série que j'aimais beaucoup et qui m'a atrocement déçu et qui est devenue d'une telle laideur et d'une telle nullité que je me demande pourquoi elle est toujours là. Voilà.
Bah en fait les ficelles deviennent de plus en plus grosses. Moi je suis un peu comme toi en fait, après la saison, là on en est où? On est dans la saison 8, c'est ça? Oui, et ben donc moi après la saison précédente, j'ai arrêté même à mi-chemin de la saison précédente.
T'as vu la biche quand même?
Non.
Non, il faut parce voir que j'ai la biche.
Moi j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un à binge qui suit The Walking Dead pour binge. Du coup, j'en ai profité pour, et en fait, c'est quelque chose naturellement quand une série me gonfle, je choisis même pas dans ma tête, j'arrête parce qu'il y a trop de séries dans la vie en fait à regarder, et trop de séries géniales en plus. Donc The Walking Dead, pourquoi s'infliger un truc pareil? Je suis assez d'accord avec toi, la série elle a totalement perdu vraiment l'esprit des débuts. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'au départ, c'est devenu un blockbuster, mais au début, c'était vraiment une bonne série, quoi. Elle a apporté quelque chose aux gens. Mmh. Elle a fait des petits, il y a des héritiers. Mais là, elle est devenue complètement nulle.
Personne autour de la table pour défendre.
Ok,
super. Est-ce que vous avez d'autres séries que vous voudriez cogner?
The Mist.
Ah, The Mist.
Oui.
Ah, Ah bah voilà, vous êtes deux en plus, c'est
non,
formidable.
Mais en plus, j'adore Stephen King. Mais et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que... Quoi ? Pourquoi ? Quel moment vous vous êtes dit dans votre tête ?
En même temps, c'est ce qu'on s'est dit avec beaucoup de séries adaptées de Stephen King.
Non, mais, surtout, après Dome, non, mais surtout après Under the Dome et la fin d'Under the Dome qui était déjà du gros mindfuck.
T'es allé jusqu'au bout ?
Ouais.
On a trouvé la personne qui allait jusqu'au bout de Under the Dome, c'est incroyable.
Et c'était du grand n'importe quoi.
Et moi, je suis allé au bout de The Mist. Hein.
Ouais, wow, mais enfin, c'est plus court quand même.
Non. Ah. Je tiens la vie. Non. Mais ouais, non, The Mist. Et il y a aussi un autre truc que j'avais pas du tout aimé, que j'ai trouvé que c'était une grosse série. Enfin, deux adaptations de Shakespeare que j'ai vu les pilotes, mais je suis pas allée plus loin. C'est Still Star-Crossed, qui était la réinvention, mais avec...
C'est Shonda Rhimes qui avait besoin de faire un peu d'argent et qui était partie en vacances,
elle,
à mon
elle
avis.
Elle a fait n'importe quoi. Enfin, elle a fait un espèce de mélange ethnique. Je suis c'est pour la
Juliette.
Représentation de toutes les minorités, mais c'est vrai que là, c'était complètement anachronique.
C'est la suite de Roméo et Juliette. Déjà, c'est une hérésie de base.
Déjà de base, mais c'est que surtout, enfin, le père de Roméo est blanc, Roméo est noir. Tu comprends pas, en fait. Tu te dis à quel moment... Non. Mais même
c'était
pas métisse,
très mauvais.
Tu vois,
je crois que j'ai regardé 20 minutes.
Et les dialogues étaient mauvais. Les costumes étaient mauvais, ça voulait à la fois faire du théâtre classique tout en étant moderne, donc tu comprenais pas trop. Et Will, c'est à peu près pareil, ça voulait faire un espèce de Shakespeare pop-rock, avec un beau Shakespeare, beau gosse, avec une famille mais qui drague à côté, et on comprend pas trop en fait ce qui se passe.
J'ai bien aimé par contre Will.
Rock'n'rollisation.
Parce que c'est fait par le scénariste justement qui a fait pas mal de films avec Baz Luhrmann, donc il y a vraiment un style un peu comme ça de moderniser un peu à la Roméo et Juliette que moi j'ai assez aimé. Il y a aussi un truc dans Will, c'est que il représente avec ses petits copains du théâtre la jeunesse qui fout un fuck aux vieux aristos qui font le théâtre de l'époque. Et ça j'ai bien aimé, tu vois, leur joute verbale et le côté rock'n'roll de cette jeunesse qui est obligée de.
Le battle version Shakespeare. Ridicule.
Moi j'ai trouvé ça.
C'était 8 miles.
Autre punching ball sur lequel vous vouliez vous énerver.
Moi je suis assez déçue par la saison 2 de Riverdale. J'avais trouvé cette série assez cool. C'est une série ado avec une esthétique hyper rétro qui doit à beaucoup d'autres séries comme notamment Twin Peaks. Et en fait j'avais bien aimé la première saison, l'atmosphère, les personnages, même si ça restait un peu superficiel. La saison 2 par contre ça devient du niveau de Scream virgule la série. C'est-à-dire qu'ils ont inventé un serial killer en mode je veux purifier la ville. Enfin c'est une des héroïnes. Elle est en contact direct avec lui au téléphone, elle va même pas voir la police, enfin c'est que des trucs. Et je suis très déçue aussi parce que Riverdale avait pour habitude de s'attaquer à des sujets de société sensibles pour les jeunes, que je trouvais, et le faisait d'une manière des fois un peu souvent trop superficielle, mais au moins elle le faisait et elle gardait un message fort là-dessus. Et dans la saison 2, elle s'attaque à la culture du viol, ce qui est très bien, et elle le fait bien jusqu'à la fin où en fait dans cet épisode en gros c'est un truc de œil pour œil, dent pour dent, fais-toi justice toi-même. J'ai pas du tout aimé le message que ça renvoie. Donc maintenant même sur ce genre de thématique elle se plante. Donc voilà, cette saison 2 je suis assez
Riverdale.
Déçue.
Et refermons ce bilan sur ces 10 minutes de Fiel qui nous permettra, je l'espère, ce bilan, de passer l'âme en paix en 2018. Merci Charlotte Bloom d'OCS, Marion Olité de Combini et Asmaël Mardi de Brain Damaged. Merci aussi à Jules Cros qui était à la technique et bien sûr au public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. On prend un peu de vacances, on laisse filer les fêtes, on revient le 15 janvier en pleine forme pour une nouvelle année sérielle. Bonne fin d'année à toutes, bonne fin d'année à tous et rendez-vous en 2018.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
What?
That's the last one.